Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Un cap-cap un peu particulier, puisque je vous invite à la présentation d'un livre qui a été écrit par un talentueux romancier que j'ai eu souvent le plaisir de recevoir sur cette antenne. Il s'appelle François-Henri Soulier. Son dernier opus a été présenté à un public nombreux dans sa bonne ville de Montauban. Alors pardon pour le son de ce très agréable moment, mais les conditions d'enregistrement étaient loin d'être optimales. Cependant, je crois que ce qui s'est passé lors de cette présentation mérite d'être restitué. Ce nouvel ouvrage s'appelle « Les pirates de Dieu ». Il est publié aux éditions 10-18. Alors écoutons François-Henri Soulier, ses amis libraires et ses amis comédiens.
Bonsoir. Vous avez remarqué que pour présenter François-Henri Soulier, il faut tout de même deux libraires, un ex-libraire et une libraire en pleine activité, et quatre comédiens. Et nous avons refusé six autres personnes qui voulaient aussi venir, mais il n'y avait pas cette place sur la... Alors, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas François-Henri Soulier. C'est-à-dire que c'est un homme de théâtre aux multiples facettes, puisqu'il était, il était à la fois aussi écrivain, il est comédien, il est marionnettiste, il est scénographe, metteur en scène, scénariste, homme de mots.
Et je repasse très bien aussi.
Mais ce qui pourrait étonner, c'est de savoir que son premier roman, il ne l'a écrit qu'une fois qu'il avait commencé à être dans la soixantaine. On peut se demander pourquoi il n'a pas écrit avant. Avant, il avait écrit trois pièces de théâtre. Mais c'est simplement à ce moment-là qu'il a écrit un roman. Il a écrit qui s'appelait Scandère Corsaro. Il n'y a pas de passé simple. Peut-être que son passé personnel était compliqué, mais en tous les cas, il n'y a pas de passé simple. Et où l'a-t-il publié ? Au Masque. Vous savez, cette collection à couverture jaune, une collection dans laquelle les plus grands polars ont été publiés. Il a commencé donc en 2016. Et puis il a continué, parce que ça a très bien marché. Ça a si bien marché d'ailleurs que ce premier roman a eu le prix du premier roman au Festival de Beaune. Et donc son éditeur a dit, François, continuez, François-Henri. Alors il a publié en 2017, Un fesse n'a plus que parfait, en 2018, Le présent n'a plus de temps, Impératif absolu en 2019, tout ça au Masque, tout ça avec Scandère Corsaro. Ça, c'était des romans qui sont contemporains. Mais, comme si ça ne suffisait pas, il s'est mis à écrire avec son ami Thierry Bourcy à quatre mains dans la collection Grand Détective du Masque.
Non, de 1018.
Pardon.
De 1018.
Oui, ça c'était Grand Détective au départ.
Ah oui, mais c'était Grand Détective 1018.
Oui, Grand Détective, oui, pardon. Grand Détective de la collection 1018, pardon. Mais c'est la collection Grand Détective. Donc là, il y a eu trois romans, qui ont été publiés en 2016, 2017, 2018, alors qu'en même temps, il publiait. C'est Scandère Corsaro, et ces trois livres, publiés à quatre mains, nous ont projetés dans le XVIIe siècle. Ensuite, pour 10-18, la même maison d'édition, il a publié une trilogie qui s'est appelée Occitania, et dans laquelle il y a eu Angelus Magnificat et Requiem, en 2021, 2022, 2023, qui sont des livres qui nous transportent en Occitanie, mais qui nous transportent au 12e, à la fin du 12e et au début du 13e siècle. Pour être complet, j'ajouterai qu'il a publié deux BD, L'hiver de l'éléphant, qui se passait en 1918, et Montauban 1621, qui était publié en 2021, c'était à l'occasion des 400 coups, du 400e anniversaire des 400 coups de Montauban. En plus, un essai, en 2021, Jean Racine a 20 ans, au Diable Vauvert, dans la collection 20 ans. Donc, si on fait un compte rapide, on a 11 romans, entre 2016 et aujourd'hui, on a donc 11 romans si on tient compte des Pirates de Dieu, on a une BD, on a cet essai sur Jean Racine. Franchement, Henri.
J'ai fait d'autres choses aussi.
Il a fait beaucoup d'autres choses, mais on va pas. Mais on va dire tout de même que tu es devenu d'un seul coup un stock analyste de l'écriture.
Oui, oui. Alors, en fait, c'était bizarre, mais vous savez, bon, j'ai 71 ans, bientôt, là, et c'est un peu la dernière bobine du film, vous voyez. C'est-à-dire que c'est à la fois excitant, un peu inquiétant, mais aussi passionnant. Et puis, c'est vrai aussi que les 60 années précédentes, je les ai passées davantage à vivre. Je crois que la vie était plus urgente que l'œuvre. Donc j'ai vécu. Voilà. Et puis maintenant, je me suis dit, peut-être qu'il est temps de rendre à la vie ce qu'elle t'a donné. Donc j'écris. Voilà. C'est un peu une occupation de vieux d'écrire quand même. Bon, je sais qu'il y a des jeunes auteurs, aujourd'hui, alors on va être demandé par Rimbaud, évidemment, mais il y a toujours un peu des pantoufles et points de feu dans l'écriture. Je veux dire, on se coupe de la vie pour en fabriquer une autre, vous voyez. C'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude quand on est jeune. Hein. Donc voilà, quand je me suis sorti sur la pente descendante de ma maison, de l'autre côté de la toiture, où ça glisse, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça glisse très vite. Sans vouloir me raccrocher aux branches, aussi je vais me raccrocher au temps perdu. Et en suivant les conseils du petit Marcel, je me suis évertué de rattraper ce temps perdu en écrivant. Et puis j'ai écrit quand même depuis que j'ai 10 ans, donc même si ce n'était pas connu, enfin diffusé autant, j'ai beaucoup écrit pour moi, pour les autres, j'ai même été nègre, enfin on dit pas ça, mais on dit. Et plume, mais donc ghostwriter, hein, j'ai beaucoup ça écrit un fantôme. Et voilà, et donc il faut bien s'occuper quand même, je ne sais pas ce que vous faites de vos journées, mais écrire est une jolie façon de s'occuper à tant qu'à mort.
Donc les corsaros, les peuples contemporains, les grands détectives à quatre mains, ça c'était le XVIIe siècle. Ensuite, l'Occitanie, là on était directement dans le XIIe, au début du XIIIe siècle. Alors pourquoi, d'un seul coup, nous plonger en l'an 326 et dans l'Empire romain?
Alors ça, c'est entièrement la faute de mon éditrice, Elsa. Sans ça, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Voilà. Nous étions au salon du livre de Lille sur le Tarn, Lille Noire, il y a donc un an et demi, et on parlait de mon éventuel avenir dans l'écriture. Et Elsa me suggère un sujet, elle me dit tu dois écrire un truc sur les pirates. Oh merde, je me suis dit. C'est foutu d'avance parce que tout le monde va voir débarquer Johnny Depp, et c'est fait quoi, j'ai rien à dire sur ça. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, quand même, ce serait bête de faire de la panalza, elle me donne un sujet, je vais me creuser un peu, puis je lui dis, tiens, et les pirates dans l'Antiquité, ça s'est jamais fait. Alors elle m'a dit, d'accord, voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Et comme j'avais un autre truc qui me t'a embusqué depuis quelque temps, c'était comment une civilisation finit et comment une autre commence. Et particulièrement, cette histoire de la fin de l'Empire romain, qui va devenir l'Europe, le monde chrétien et l'Orient qu'on connaît aujourd'hui. Parce que l'intérêt d'écrire sur le passé, c'est que ça soit un réflecteur de notre époque, que ce soit en écho avec ce que nous vivons, avec nos préoccupations. Ça, Racine l'a dit très bien, Marie d'Ursona l'a dit encore mieux, et je ne fais que répéter une banalité en disant ça. Mais c'est vrai que je me souvenais de mon émotion quand j'avais 16 ans, quand j'ai vu le 7e code de Fellini, où j'ai demandé à mon prof de latin de nous apprendre ça tout de suite. On a donc travaillé Pétrope en classe grâce à Fellini. Et il avait dit cette chose que je trouve extraordinaire. Il avait dit les Romains de cette époque étaient des pré-chrétiens sans le savoir. Il parlait du 1er siècle. Et comme nous sommes, nous, des pré-quelque chose sans le savoir. Ça m'avait frappé quand j'avais 16 ans, cette phrase de Fellini. Et j'avais mis une autre en exergue de mon livre, de Fellini toujours, toujours au sujet du Satyricon. Il dit cette chose que je trouvais à la fois très belle et un peu inquiétante. Nous connaissons l'obscurité qui est derrière nous, mais nous ne connaissons pas l'obscurité qui est devant nous. Et dans cet instant un peu étrange que nous vivons en ce moment, de changement de monde, de changement de société, de changement, je ne dirais pas de peur, mais bon, quand même si l'humain reste humain, beaucoup de choses changent par rapport au monde d'avant les années 2000. Il y a une inquiétude, il y a un désarroi, il y a une anxiété, parfois un intérêt vite pour ce qui va se passer, mais ça ne se passe pas si simplement que ça. Et je crois que nous sommes exactement comme ces anciens patriciens ou romains de ce monde païen quand ils ont vu débarquer la religion monothéiste qui a tout bouleversé totalement les consciences. Alors je ne voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas. Je reconnais dans le christianisme une avancée de la pensée dans la générosité, pardon, l'idée de ne plus lapider les femmes adultères, c'est quand même une très bonne idée. L'idée d'essayer de s'aimer les uns les autres, c'est pas mal en plus comme idée. Ce qui est plus moche, c'est ce que l'Église en a fait, mais ne revenons pas. On peut dire que chez Marx aussi, c'était une très bonne idée, le marxisme. Les 60 millions de morts de Staline en sont une autre. Vous voyez. Et je crois que dès qu'une très belle idée tombe entre les mains des gens du pouvoir, elle devient immédiatement une saloperie. Et voilà, il y a aujourd'hui de belles idées qui flânent dans l'air, méfions-nous de ce qu'elles vont devenir. Soyons prudents de nos enthousiasmes, soyons vigilants de ne pas les voir se pervertir dans le réel. C'est la raison pour laquelle j'écris sur le 4e siècle.
Je vais plutôt t'inciter à rentrer dans l'intrigue de ce roman, qui ne sera pas une trilogie. François-Henri l'a bien annoncé, il n'y aura pas de suite.
J'en ai trop chié avec la précédente. C'est trop dur, les trilogies.
Voilà, le 4e siècle, c'est une fois.
Oui, mais pas deux.
Donc, le petit film, qui n'en est pas un du coup, mais donne vraiment tout le contexte. Vous avez le début de l'intrigue, et donc, il y a une enquête qui va se faire, en effet, en Palestine, au départ de Byzance, puisque c'est encore Byzance, envoyée par Constantin. Il y a un trio, on va dire, d'enquêteurs qui va partir, donc Aurelius, son conseiller principal, Eusebios, qui est l'évêque qui, lui, était à Jérusalem et est venu alerter sur ces meurtres, et sur ce bateau en partance, Elena. Elena, qui, elle, est peut-être un petit peu moins dans l'enquête, mais qui va quand même y participer. Et sur ce bateau qui est en partance, Aurelius va prendre sous son aile deux jeunes qui sont sur ce bateau, qui sont des anciens pirates, Kyros et Galéo. Ça va faire un trio que je trouve très beau, attachant. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce trio. Comment est né ce petit groupe d'enquêteurs qui est vraiment très attachant et très complémentaire, en fait. Il est très équilibré.
Oui, alors l'idée, c'était de parler de pirates. Il me fallait tout ce que j'avais promis à Elsa. Il fallait qu'il y ait des pirates. Et je me suis dit, après tout, ça serait bien de faire s'associer des gens que tout sépare. D'un côté, Madame de Cour, un philosophe, on va dire, il est très imprégné de stoïcisme. Cet homme, Aurelius, veut être pour Constantin ce que Sénèque avait essayé d'être pour Néron, par exemple, c'est-à-dire cette intelligence, de savoir, de culture, de finesse d'esprit, qui essaie de modérer l'homme de pouvoir et qui essaie de mettre de la philosophie dans la pratique du pouvoir. Donc ça, c'était très beau. Et de l'autre côté, deux jeunes types dans la force de l'âge, ils ont 7-17 ans, ils sont bêtes de santé, et ce sont des pirates, donc, et l'idée de les faire embaucher comme enquêteurs par cet homme de cour, je trouvais que c'était amusant, ça crée déjà un trio d'enquêteurs. Et surtout, chacun avait sa vision du monde. Et Aurélius dit à un moment, même, je ne veux pas d'hommes de cour à côté de moi, parce qu'ils vont me servir pour me faire plaisir. Tandis que vous, je sais que vous n'allez pas essayer de me faire plaisir. Vous allez être honnête, vous allez me dire vraiment ce qui est. Effectivement, ça va fonctionner. Bon. Et puis en même temps, ça permettait de dépeindre une relation un peu particulière entre les gens du peuple, très modestes, et les gens les puissants, les riches. C'était assez marrant. Bon, mais le personnage d'Héléna est tout aussi intéressant, la mère de l'empereur. Alors peut-être je vais vous proposer quand même une scène pour que mes amis ne sont pas là trop écouter pour rien. Ce Constantin, donc les hagiographes ont fait le merveilleux empereur chrétien, grâce à qui, etc., Palais d'Atsuin, tout ça c'est du don. Constantin était un monstre, paranoïaque, sanguinaire, et qui, d'ailleurs dans le début du roman, sans rien divulguer, je peux vous dire qu'il va tuer d'abord son fils et puis quelqu'un d'autre après. C'est un type qui ne va pas hésiter à égorger un gamin de 11 ans parce qu'il a déjà tué le père. Il s'est dit, ouais, d'accord, vous savez, il a 11 ans, d'accord, enfin, il aura 11 ans toute sa vie. Un beau jour, il en aura 20, il va vouloir se venger. Donc, on le tue maintenant, ça sera moins, ça élimine un problème futur. Vous voyez, raisonner comme ça. Alors, il faut se dire aussi que la vision de la vie humaine et la valeur de la vie humaine est une chose qui n'existe pas dans cette époque-là. La vie vaut ce qu'elle peut rapporter. Que ce soit en termes économiques, ou en termes de pensée, ou en termes d'art, hein, mais une vie en soi ne vaut rien tant qu'elle n'a pas servi. Donc, on peut, et s'il y a une limite, on peut s'en défaire sans problème. Hein. La traite des gens, des êtres humains, hommes, femmes, enfants, est tout à fait normale, l'esclavage est tout à fait normal. Il y a toute une économie qui fonctionne là-dessus, et marche très bien, il n'y a pas de raison d'arrêter. Alors ça va poser un problème quand l'Empire n'a plus de guerre, il n'a plus d'esclaves, puisque le pouvoir des esclaves, c'était des gens qu'on capturait à l'occasion des guerres. Mais, bon, ils vont trouver par le jeu de son système. Après, ils vont naître le servage de la féodalité, d'autres façons de réduire les gens d'esclaves, jusqu'aux actuels congés payés, mais c'est une autre histoire. Mais, sachant que l'esclavage aujourd'hui perdure encore, on ne dit rien de l'esclavage arabo-musulman qui a lieu encore de nos jours, depuis très longtemps, et qui a duré beaucoup plus longtemps que l'esclavage triangulaire qu'on connaît, qu'on dénonce. Voilà. Il faut quand même remettre les choses dans les perspectives historiques un peu. Donc, voilà ce Constantin qui a tué son fils. Et la vieille Héléna, la grand-mère, donc la mère de Constantin, va le trouver pour lui demander des comptes. Je vous propose de suivre la scène avec nos amis. Donc, Héléna vient de découvrir le corps de cadavre de son petit-fils. Elle comprend que c'est le fils qui a commandé le meurtre. Et lui est en train de se faire raser par un barbier pour aller assister à des cérémonies. Et elle entre, enfin, elle va essayer de le trouver.
Elle court, portée par la colère. Si elle pouvait, elle volerait. C'est comme si des ailes avaient poussé à ses chevilles. Elle franchit les hauts degrés qui mènent à l'étage impérial, traverse le long couloir aux murs tapissés de porphyre, arrive, haletante, devant la porte bardée de bronze, auprès de laquelle un garde veille.
Ouvre !
Sans tergiverser, le garde obtempère. On ne saurait contrarier la mère de l'empereur.
Qu'as-tu fait, Constantinus ? Monstre ! Qu'as-tu fait ?
D'un geste paisible, le maître du monde essuie son visage humide. Puis il s'assure d'un coup d'œil que le barbier est bien parti. Enfin, il daigne ouvrir la bouche.
J'ai fait ce que commandait le devoir de ma charge.
Tu as fait assassiner ton propre fils.
J'ai mis de l'ordre dans les affaires de ma maison, ainsi que j'en ai mis dans celle de l'Empire.
Héléna connaît le caractère de son fils. Son père avait le même. Un calme faussement débonnaire qui cache des nerfs d'acier et une impitoyable rigueur. Elle sait qu'il ne sert à rien de s'emporter devant lui. Contenant la fureur qui l'anime, elle tire un siège et s'assied, bras croisés, lui faisant face. faute des remords dont elle le sait incapable, elle attend au moins une explication. L'empereur est pris au dépourvu par cette accalmie soudaine. Il promène sa main sur sa joue, l'air dépité d'y trouver quelques poils revêches abandonnés par le barbier. Mais il ne peut laisser s'éterniser le silence entre sa mère et lui.
Il y a peu de temps, j'ai fait promulguer une loi afin de châtier les mœurs matrimoniales et de renforcer les liens du mariage. N'est-ce pas ce que vous souhaitiez, toi et tes amis chrétiens ? Il se trouve que Crispus a non seulement bafoué cette loi, mais encore, s'estimant peut-être au-dessus de toute règle morale, il a traîné dans l'ordure l'honneur de notre famille et le mien tout particulièrement.
Qu'a-t-il fait ?
Il a forniqué avec Fosca, avec ma femme.
En es-tu sûr ?
C'est Constantius qui m'a prévenu.
Elena n'aime pas ce troisième petit-fils que Fausta, la seconde épouse de l'empereur, lui a donné. Menteur, chafouin et voleur, ce gamin qui a tout juste 9 ans est capable de toutes les vilenies pour en tirer quelque avantage.
Tu fais confiance à ce petit merdeux ?
Cette nuit même, sur les indications de ce fils dévoué, j'ai surpris les coupables. Je les ai vus de mes propres yeux se livrer à la plus infâme débauche dans la chambre de Crispus. Je l'ai fait égorger sur le champ.
Elena est abasourdie. Que pourrait-elle répliquer ? Pour avoir été servante d'auberge dans sa prime jeunesse, elle ne sait que trop à quelle irrésistible et funeste pulsion les mâles sont parfois enclins à obéir. Elle connaît aussi les femmes et leurs coupables faiblesses. Pour Fausta, au bord de la trentaine, il devait être difficile de résister aux attraits du beau Crispus. À deviner les bourrelets sous la pourpre impériale, les bajoux devenus flasques et le souffle un peu court de Constantinus, il n'est pas malaisé de comprendre que la fraîche impératrice ait pu s'égarer des bras du père dans celui du fils. Certes, c'est un bien grand péché au regard de la morale chrétienne et un crime du point de vue de la loi, mais le châtiment n'en est pas moins démesuré aux yeux d'une grand-mère aimante. Elle ne peut retenir une pique qui lui brûle la langue.
Il est dommage que le cocu l'ait emporté sur l'empereur.
Elena est satisfaite. Constantinus vient de se mordre les lèvres. C'est là le mouvement exact qu'il faisait quand elle le réprimandait lorsqu'il était enfant. Elle en rajoute.
On se grandit toujours en étant magnanime, tandis que la vengeance diminue son auteur. S'agissant de ton fils, quelque clémence aurait été la bienvenue.
S'agissant de mon fils, la faute n'en est que plus odieuse.
Et celle de ta femme, qu'en est-il ? Cet acte, il ne l'a point commis tout seul, que je sache. Sera-t-il seul à en payer le prix ?
J'ai ordonné que Fausta soit recluse dans ses appartements, interdite de toute visite, dans l'unique compagnie de servantes et d'eunuques. Elle n'en sortira plus jamais.
Vie et mort ne se valent pas. Cela s'appelle deux poids, deux mesures. Dans le cas de Fausta, la peine est bien légère comparée à celle de Crispus.
L'empereur s'est levé. L'entrevue n'a que trop duré à son goût.
Tu dis vrai, mère. Je songerai à l'aggraver quelque peu. À présent, les affaires de l'Empire me réclament. Porte-toi bien. Je te salue.
Que Dieu t'ait en sa sainte garde, mon fils.
Elle se sent soudain vidée de toute énergie. Son œil vague parcourt le décor luxueux du cabinet de travail de Constantinus. À quoi bon toute cette splendeur ? Son petit-fils est mort. Seul l'obsède cette unique pensée. Au plafond scintillent les reflets du soleil sur le Bosphore. Des milliers de petits miroitements éphémères et changeants qui disparaissent à peine nés, comme autant de minuscules entités immatérielles.
Faites, mon Dieu, qu'il existe une vie éternelle.
C'est la prière d'Elena aux lumineuses créatures du plafond. Alors s'ouvrent les vannes du cœur et les larmes se mettent à couler. La vieille dame pleure tout ce qui reste à pleurer.
Merci. Il y a d'autres salles avant, bien sûr. Oui.
rester un instant sur Elena ?
Volontiers.
Parce que Elena, on va apprendre très vite dans le livre, je crois que c'est le chapitre premier, que si elle a épousé la religion chrétienne depuis 30 ans, elle va tout de même faire des augures. Pourquoi ? Parce que le Dieu des chrétiens est muet. Jamais il ne parle à ses fidèles. Encore moins répond-il à leurs questions. C'est pourquoi elle va les voir. Il y a une autre, je dis ça parce que la religion a un rôle très important dans le livre, et Elena, de ce côté-là, est une personne intéressante pour ça. Justement parce qu'elle va dire un peu plus loin, « Pour qui a vécu comme moi une enfance et une jeunesse dans le dénouement et la soumission, l'espérance d'un au-delà plein de félicité est une promesse à laquelle on aime croire. Alors que nos anciens dieux, dit-elle, ne nous promettaient rien. Celui-ci nous parle de vie éternelle. »
Oui, je crois que c'est un des grands succès d'ailleurs du christianisme à l'époque, c'est outre le vivre ensemble, entre guillemets, que ça promettait, il y avait surtout cette idée d'un au-delà de félicité. Et donc cette vallée de larmes peut-être serait l'été, peu importe, puisque après, nous attendait quelque chose de merveilleux. Et donc Elena, qui est dans un milieu très pauvre, très modeste, qui a été prostituée presque enfant par son père aubergiste, a quand même quelques raisons d'espérer mieux. Et comme elle dit, les dieux antiques parlent alors que le dieu nouveau, lui, ne parle pas. Alors d'un côté, il promet quelque chose que les dieux anciens ne promettent pas, mais d'un autre, les dieux anciens, eux, parlent par la voix des oracles, etc. Et comme vous savez que ce qu'on apprend dans l'enfance nous marque à tout jamais, et que souvent cela ressort, parfois contradictoire avec ce qu'on est devenu, on reste quand même, je crois, assez fidèle aux choses qui ont marqué et aux croyances qui ont marqué notre enfance. C'est un peu ce que je voulais montrer dans ce personnage très complexe d'Elena, qui est un des personnages qui m'a le plus passionné à décrire. Parce que c'est une femme magique quand même. Songez qu'elle se fait faire un enfant. Elle est donc en Bithynie, c'est-à-dire l'équivalent de la Turquie d'aujourd'hui du Nord. Elle se fait faire un enfant par ce type qui arrive blessé de la guerre, qui est un des quatre empereurs. Elle le soigne, elle accouche d'un garçon, il a besoin d'un fils, il dit « je te garde, mais je ne te tente pas comme épouse, je te tente comme nourrice ». Elle va devenir une espèce de meuble qui va promener avec lui pour élever l'enfant. Il épouse lui Théodora, qui est fille de patricien. Comme ça, il va devenir un des quatre empereurs de l'époque. Et puis quand donc le fils grandit, bah, il va zigouiller tout le monde de façon à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul empereur lui-même. Et c'est là que l'idée est intéressante aussi. Un empereur, un peuple, un empire, une religion et monothéiste. C'est une volonté d'unité, d'unification de l'Empire d'Orient et de l'Empire d'Occident qui va pousser Constantin, je vais dire, alimenté par l'aile progressiste de sa cour, qui va lui expliquer, écoute, c'est très simple, le christianisme s'adresse aux pauvres, aux malheureux, à tout le monde, alors que toutes les religions que nous avons sont plutôt aristocratiques ou militaristes, ou ne s'adressent pas aux femmes, ne s'adressent pas aux esclaves. Et tu auras du succès avec ça, parce qu'il y a davantage de pauvres que de riches. Et c'est ce qui fait que Constantin va choisir de façon très calculée, très politique, le christianisme, et qu'il va essayer de l'imposer. Alors après, ça marchera plus ou moins bien après lui, il faudra attendre Théodose, c'est-à-dire 80 ans plus tard, pour qu'il y ait vraiment une unification chrétienne de l'Empire d'Orient et de l'Empire d'Occident. À cette époque-là, il y a très peu de chrétiens dans l'Empire d'Occident. Il y en a un petit peu en Gaule, mais très peu, il y en a un petit peu en Germanie, mais très peu. En revanche, il y en a beaucoup en Orient. Il y a beaucoup de tribus arabes qui sont chrétiennes à cette époque. Et il y a donc, n'oublions pas, c'est une secte juive dissidente hein, du judaïsme initial, qui est donc devenue le christianisme en refusant certaines choses et en prenant d'autres choses. Et ça a pris assez rapidement grâce à merveilleux voyageur de commerce qui était celui que nous appelons Saint Paul, le Tarsiote, hein, qui a été un communicant hors pair. Et ça a gagné tout le bassin méditerranéen côté Asie. La Syrie, la Turquie, la Grèce, l'Albanie, c'est revenu vers Rome. Mais à cette époque-là, il y a très peu de gens. Je voudrais aussi revenir sur une idée fausse. Quand on parle des fameuses persécutions des chrétiens, ils n'étaient pas persécutés parce qu'ils croyaient au Christ. Ils étaient persécutés parce qu'ils refusaient de participer au rite collectif citoyen de l'Empire. C'est donc en tant qu'anarchistes, en rupture d'État, en rupture de société, qu'ils étaient persécutés, mais pas pour leur croyance. Parce qu'à cette époque-là, on pouvait croire absolument à ce qu'on voulait, ça ne gênait personne. Il y avait même dans plusieurs villes de l'Empire un temple aux dieux inconnus. Au cas où vous en avez oublié un, mais c'était absolument incroyable. Ce qui a permis d'ailleurs à Saint-Paul, à vivre dans la tête, de dire mais attendez, votre dieu inconnu là, c'est le mien. Qu'on veut plus, d'accord, très bien. Ce qui veut bien dire que donc ce n'était pas pour telle ou telle croyance que vous étiez puni, mais c'était pour le délit de non-citoyenneté. C'est-à-dire de refuser de participer aux cérémonies collectives, puisque c'est finalement la vraie raison d'une religion, c'est de créer un ciment sociétal autour duquel se retrouve tout un peuple, dans des pratiques, dans des rituels, dans des cérémonies. Et si vous n'y participez pas, eh ben, c'est que vous êtes asociable. Et c'était ce qu'étaient les chrétiens, les juifs aussi d'ailleurs, hein. Mais un titre moins, parce qu'ils arrivaient à lui donner un peu le goût. Mais les chrétiens étaient des vrais puristes, donc non, on ne veut pas aller se promener au Champ de Mars avec des guirlandes, on ne veut pas suivre des fabus dorés pour la fête du printemps, notre scène, on fait notre truc à nous. Voilà. C'est pour ça qu'ils étaient persécutés, pas pour une croyance, pour une non-pratique sociale. Voilà. Il faut remettre des choses dans la vérité historique. Ce que je vous dis est fondé. J'ai relu les pères de l'Église, j'ai relu les historiens de l'époque, les pro-chrétiens, les anti-chrétiens, et j'ai pu vraiment me faire une idée, je crois, assez précise dans l'état des connaissances actuelles. Sur tout ça reste encore un sujet à débat d'historien, mais je ne suis pas un historien, mais j'ai lu un livre. Voilà, je vais écrire le mien. Voilà. Peut-être on va enfoncer le clou avec les comédiens encore sur la relation de Constantin et Apron par un plus de lui. Il y a une autre scène où il n'en peut plus de sa maman. Vraiment, là, elle le gonfle. Parce que, comme elle est chrétienne, elle lui dit, mais tu sais, ce que tu fais, c'est pas bien. On fait pas ça. On tue pas son fils, on tue pas les gens, on pardonne. Elle voudrait vraiment qu'il fasse au moins semblant d'y croire. Et alors, l'empereur d'une deux convoque son conseiller. Et ça donne ça.
As-tu déjà été hanté par l'envie de tuer ta mère ?
L'empereur fixe Agrippa Aurelius, avec une avidité dans l'œil, qui est celle de l'élève interrogeant un maître en philosophie. Il promène son index à la racine de son nez, comme si quelque chose le démangeait entre les sourcils. À l'évidence, ce n'est point en l'expérience personnelle de son conseiller que son point de vue sur la question du matricide en général qui intéresse Constantinus. Son interlocuteur le connaît trop bien pour se méprendre. C'est donc que l'empereur se demande s'il est opportun d'assassiner Helena, ainsi qu'il l'a fait hier avec Crispus. Quel qu'en soit le motif, l'entreprise est hautement risquée.
Noble seigneur, j'ai peur que mon avis te soit de peu d'utilité. J'ai le sentiment que tous les enfants, à un moment ou à un autre, peuvent éprouver le désir de se voir orphelins. C'est une chose, somme toute, assez banale. Pour répondre à ta question touchant à ma propre mère, je garde d'elle un souvenir attendri. Je ne me souviens pas d'avoir jamais éprouvé à son égard la moindre animosité. Il est certain que, de toute notre existence commune, pas un instant je n'ai souhaité sa disparition.
Bienheureux Aurelius. C'est que tu n'as pas connu la disgrâce d'être un fils de putain.
Pour le coup, le conseiller manque de s'étrangler. Voilà près de 15 ans qu'il est au service de Constantinus, et pas une fois ce dernier n'a fait, en sa présence, la moindre allusion aux origines misérables d'Héléna, encore moins à sa position première de servante d'auberge, c'est-à-dire de prostituer.
Vois-tu, Dès l'instant où mon père l'a répudié pour épouser Théodora, je n'ai eu de cesse d'apporter tout mon soutien à ma mère. J'ai délaissé à son profit les rares plaisirs que m'octroyait ma vie de soldat. Pendant des années, je n'ai ménagé ni mon temps ni ma fortune pour assurer son confort. J'ai fini par faire d'elle une reine-mère, respectée de tous, en lui conférant l'honorabilité suprême par le titre d'Augusta. Or, voici qu'après m'avoir traité de monstre, elle me tourne le dos et pousse le mépris jusqu'à refuser de me parler. A-t-elle oublié d'où elle sort et ce qu'elle est devenue grâce à moi? C'est à croire qu'elle aussi a trempé dans le complot. C'est pourquoi je te demande, ne serait-il pas judicieux d'agir?
Agrippa Aurelius possède une trop grande science du caractère sinueux de Constantinus pour s'aventurer à le contredire de front. Ce serait le meilleur moyen de le pousser à l'acte. Pour le convaincre de changer d'avis, il faut d'abord lui dire qu'il a raison et lui montrer ensuite où serait son intérêt véritable.
Divin César, l'idée en soi n'est point mauvaise. Ce sont les conséquences éventuelles qui me laissent douter.
Mais quelles conséquences? Ne suis-je pas le maître du monde?
Certes, certes. Mais ma qualité de premier conseiller m'oblige à envisager tous les aspects de la question si je veux te servir sans négligence. Je songe au malheureux Oreste, poursuivi par les Erini au lendemain de l'assassinat de sa mère Clytemnestre, harcelé par ses furies jusqu'à en perdre la raison.
Les déesses de la vengeance n'ont pas de prise sur moi. Je ne crois pas à ces créatures inventées pour effrayer les esprits faibles. Légende que tout cela.
D'un revers négligent de la main, le conseiller semble concéder le bien fondé de l'objection.
Je pense surtout à Néron. La mort d'Agrippina ne lui a pas vraiment porté chance.
Cette fois, l'argument semble avoir visé juste. Les faits ont beau s'être déroulés il y a fort longtemps, Constantinus sait parfaitement que l'empereur Néron a été poussé au suicide après avoir fait exécuter sa mère. L'ombre d'hésitation qui a passé dans le regard de son lointain successeur n'a pas échappé à Aurelius. Il en profite pour pousser l'avantage.
Et puis, seigneur, l'âge de la reine-mère est fort avancé. À quoi bon hâter un processus qui suit son cours naturel?
Cette fois, l'empereur affiche une moue sceptique. Il est exact qu'Elna approche des 80 ans, mais sa santé semble inaltérable. Elle peut encore vivre durant de longues années. Le conseiller a lu dans ses pensées. Il rebondit aussitôt.
Toutefois, il me vient une idée qui, sans risquer de te nuire, éloignerait de tes yeux l'objet de ton courroux. Et cela peut-être à jamais, si les dieux le permettent.
Penserais-tu à l'exil?
Je pense à un voyage.
Constantinus fronce les sourcils, curieux d'entendre la suite.
Nous avons reçu à l'aube, par le courrier impérial, confirmation de l'assassinat du préfet de Palestine. Il est donc de toute urgence de diligenter l'enquête dont tu m'as chargé. J'en ai d'ailleurs commencé les préparatifs.
En quoi cela concerne-t-il ma mère?
En voilà en Palestine par le même bateau.
Et sous quel motif?
Les reliques.
Face à l'expression d'incompréhension totale de l'empereur, le conseiller se penche un peu, baissant le ton, comme s'il allait lui confier un secret de la plus haute importance.
Un peu partout dans les lieux de culte, les chrétiens vénèrent des débris humains provenant de leurs coreligionnaires victimes des persécutions. Ils les nomment saints et attribuent à leurs ossements une valeur plus grande que celle de l'or ou du diamant. Cependant, nulle église ou basilique ne possède le moindre objet provenant de ce Christ dont ils ont fait un dieu. Leur récit raconte qu'il est mort crucifié à Jérusalem, mais il n'en reste aucune trace nulle part. J'ai parlé de tout cela hier au soir avec le vieil Eusebius. Il m'a avoué que c'était la vraie raison de sa présence à Jérusalem. Il cherche les preuves matérielles de la passion. C'est pourquoi je te suggère de charger la reine-mère de s'enquérir des reliques du Christ. Pendant ce temps, je mènerai l'enquête concernant les assassinats.
Constantinus est abasourdi. N'était-ce l'extrême sérieux du visage d'Aurelius qui serait tenté d'éclater de rire?
Mais ne dit-on pas que le Christ est ressuscité et disparu dans les airs? Que pourrait-on retrouver de lui si tant est que sa légende ait quelques fondements?
Les membres de sa secte ont peut-être conservé quelque chose ayant lui appartenu. Pourquoi pas les instruments même de son supplice? Ces gens ont une telle fascination de la mort, cela ne me paraîtrait pas impossible.
L'empereur s'est levé. Pensif, il contemple un bouquet de plumes d'autruche montées en éventail, dont lui a fait cadeau une légation égyptienne. L'émissaire qui le lui a remis a assuré qu'il avait éventé la fabuleuse Cléopâtre. Tout cela est encore plus ancien que l'histoire du Nazaréen. Si cet objet a traversé plus de 3 siècles, il se peut que l'hypothèse d'Aurelius soit fondée.
Imaginons que je fasse ce que tu proposes. Je reconnais que l'idée d'envoyer ma mère en Palestine ne me déplaît pas. Et à supposer qu'elle ne meure pas au cours du voyage, que se passerait-il si, par extraordinaire, elle venait à découvrir quelque chose?
Mais tu deviendrais de facto le bienfaiteur incontestable de tous les chrétiens, leur parfait héros. Souviens-toi de ce qui s'est passé lorsque, sur mon conseil, tu as fait arborer en emblème sur tes enseignes le symbole du Christ. Ce chrisme qu'il révère à l'égal d'une idole. Face à tes troupes, les armées de Licinius brandissaient les effigies d'Athéna et d'Arès. Or, c'est toi qui fus vainqueur.
Nos marins étaient meilleurs que les siens, et nos légionnaires plus disciplinés que ces mercenaires.
Cependant, tout le monde en a conclu que le Christ était plus efficace que les anciens dieux. N'était-ce pas le but recherché? À présent, songe à l'effet que produirait sur les foules l'exhibition de reliques ayant touché au rédempte.
Constantinus est au bord de ses dés. Il a saisi l'éventail du Cléopâtre qu'il agite pensivement. L'air frais lui donne l'impression de chasser les miasmes de la nuit d'insomnie qu'il a traversée.
Aurelius, voici comment nous allons procéder.
Voilà, ça s'arrête là.
À partir de là, le voyage commence, hein, puisque l'essentiel du bouquin, c'est le voyage, c'est la traversée pour la Palestine, et ce qui va arriver à ces étapes doubles.
Alors, du coup, je profiterai bien de ce passage pour. Et donc, Elena va être du voyage, pas sur ce bateau. Elle est accompagnée de Cabiria. Cabiria, qui était l'ancienne servante de Fausta, qu'elle prend sous son aile. Et je considère que c'est un très beau duo. Tu as fait un très très beau duo de femmes. Elles sont les seules femmes à bord, quand même. Et elles sont très complémentaires. Cette Elena qui est croyante chrétienne, Cabiria qui ne connaît pas cette religion, qui est elle plutôt sur les mythes romains habituels, on va dire, traditionnels de l'époque.
Et elle vient de Rome.
Elle vient de Rome. Et c'est un très beau duo parce que on voit deux mondes se confronter et on voit aussi beaucoup cette volonté que tu as, j'ai l'impression, de parler des petites gens face au pouvoir, mais de petites gens. Elena fut de ce peuple et c'est un très beau duo. Est-ce que tu peux nous en parler de ce duo?
Oui, c'est toujours un peu difficile de parler de ces personnages parce que tu sais, quand on écrit, c'est un peu comme acteur, on est tous les personnages. Quand j'écris, je peux devenir une petite fille, une vieille dame, un voyou, un homme d'affaires, un gamin. Enfin, c'est se démultiplier, c'est une espèce de schizophrénie heureuse, hein, l'écriture, où on a bien se démultiplier en plein de personnages, en étant lucide tout de même, je crois qu'on garde la distance, bien sûr. Et j'ai toujours été fasciné par ces personnages féminins, en particulier, qui, en règle générale, pardonnez-moi, messieurs, sont souvent plus intelligentes que nous. En tout cas, ont une manière de sentir les choses qui va au-delà du factuel, au-delà. Alors peut-être fantasme-t-elle plus, je ne sais pas, peut-être habite-t-elle un monde parallèle aussi, je ne sais ça. Je ne suis pas une femme. Bon, tous les mecs, XY, hein, donc un peu fille quelque part. Je suis toujours très très intéressé de la façon dont elles mettent en route les mécaniques de, pour s'en sortir, pour inventer la vie. Et ça se voit même aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe par exemple dans ces guerres que nous vivons. C'est les femmes qui bossent, qui essaient de trouver la bouffe, qui essaient de trouver à manger, à boire pour les enfants, qui soignent, qui protègent, qui perpétuent le vivant. Enfin, nous vivons, je trouve ça tout à fait incroyable. Et souvent, des femmes, pas forcément ni cultivées, ni savantes en quoi que ce soit, mais enfin, elles se débrouillent pour que la vie continue. Et je trouve ça assez magique. Alors, effectivement, bon, de livre en livre, d'ailleurs, je l'ai fait pareil dans la trilogie occitane. C'est peut-être qu'on est toujours intéressé par un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre. Et c'est vrai que le monde féminin est, pour un auteur masculin, je crois, intéressant à explorer. Les mecs, je les connais peut-être un peu mieux, quoi, donc c'est moins mystérieux. Enfin, je connais surtout leurs défauts, mais je connais aussi leur qualité, leur tendresse. Hein. C'est bien ce que j'ai pas dit. Mais oui, il y a dans l'univers de la femme, et particulièrement de la femme, du peuple, quelque chose de mythique, pour moi en tout cas, que j'essaie de servir. Et j'essaie de montrer cette grandeur de ces petites gens, alors là, mâle ou femelle, peu importe, hein, la grandeur de ceux qui peuvent se battre parce que tout ne leur est pas donné, hein, tout n'est pas acquis, il faut qu'ils se battent pour tout. Et c'est vraiment le cas des nains quand elles se battent pour s'imposer. Et c'est pour ça qu'elle va retrouver refuge. C'était Lactance, vous savez, Lactantius, un très grand philosophe chrétien de son siècle, qui l'a converti, qui lui a dit, mais si tu cherches du secours, viens avec nous. Et je crois que c'était un type très bien, Lactance, contrairement à Tertullien, qui était un con. Mais Lactance est un type vraiment bien. Donc Tertullien, quand même, dit, il faut bien reconnaître que la femme est la porte de l'enfer. Oui, ça commence bien. Alors, quand on lit ce monsieur, on peut envie de lui botter les fesses. Mais il y en avait d'autres qui avaient une autre pensée beaucoup plus généreuse, hein, qui se souvenaient de Marie-Madeleine et de certains signes christiques qui étaient d'une toute autre nature que ce dénigrement. Le dénigrement hérité de la Bible, encore une fois. Hein, tout le mal vient de ces visions. Excusez-moi, mais écrite par des bédouins frappadingues assommés par la canicule, et qui donc ont renié la femme, renié la chair, renié le sexe, que je sache que la volupté n'est pas une vertu biblique. Et merde, pourquoi? Quand même, hein? Bon, donc, voilà, bref, et alors vous allez avoir le sommet avec le Coran aujourd'hui, c'est pas grave, bon, tout ça c'est très... Enfin, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire des mâles frileux, obsédés sexuels pour la plupart, vivant très mal de leur sexualité, ayant une peur panique de la femme, et qui vont décréter des ukases d'impureté. Songez quand même que chez les juifs, la femme est impure 5 jours avant les règles, pendant les règles, 5 jours après les règles. Merde, il reste quoi pour eux? C'est terrifiant. Je ne nie pas le côté très positif. C'est jolie religion. Mais parfois, il est bon de mettre le doigt sur là où ça fait quand même très mal, depuis 2000 ans et plus. Non, je ne sais pas, je ne pas négligé, hein, de quoi qu'on en pas. Mais, voilà, je sais que peut-être un jour je finirai sous protection policière quand je voudrais finir tout ça. Mais bon, pour le moment, je m'attaque au précurseur.
C'est vrai que dans le livre, tu fais dire à Caviria, qui découvre cette religion, qu'à un moment. Eusébios dit que Dieu a envoyé son fils pour connaître la souffrance.
Alors maintenant, ça va jouer.
Ah.
Donc je vous propose qu'on le joue.
Je m'étais.
Voilà, alors donc c'est la scène est la suivante. C'est au palais avant le départ. Donc ça y est, ils vont partir en Palestine et Eusébios, l'évêque, est avec Elena. Caméria va leur porter une collation. Elle est accompagnée d'un petit chien qui s'appelle Skylax, qu'elle a adopté. Ce chien va jouer un très grand rôle dans le jeu, parce que j'aime aussi beaucoup les... Je crois que les chiens sont des types formidables. Vraiment, si vous les regardez bien, si vous les regardez, vous regardez, vous voyez que c'est des gens très bien. Et on devrait prendre le modèle sur eux parfois. Et donc voilà la scène où la pauvre Camilla va découvrir ce qui va se passer.
Caterina est la dame de compagnie dont je vous parlais. Je souhaiterais qu'elle nous accompagne dans notre voyage.
Les paroles de la vieille dame intriguent Cabiria.
De quel voyage parle-t-elle? Pour quelle destination et pour quel motif? En vérité, cela importe peu. La possibilité de fuir ce palais où on se cogne aux fantômes à tous les coins du corridor suffit en elle-même. Le plus tôt sera mieux.
Silencieuse, elle s'incline pour présenter le plateau à Elena. Aussitôt, frétillant de la queue, Scylax se dresse sur ses pattes, la truffe aux aguets.
Merci, je n'ai ma faim.
Noble dame, le jeûne ne nourrit pas les morts, mais il faut nourrir notre deuil si nous voulons être en état de les honorer. Prends au moins un peu de crème.
Touchée par l'insistance de la jeune femme, Elena finit par accepter l'assiette qu'elle lui tend. Alors qu'elle se redresse, elle saisit au vol le regard famélique que l'évêque jette vers la collation, en tout point semblable à celui du chien. Elle se retient de rire.
Cher Eusebios, ce serait péché que de laisser gâter cette nourriture. Je t'en prie, partageons-la.
Tu dis vrai, chère Elena. N'offensons point la Providence.
Quant à toi, Cabiria, assieds-toi avec nous et prends part à notre déjeuner.
Modestement, la jeune suivante se pose sur un tabouret pliant avant de découper une fine tranche de fromage.
Connais-tu la Palestine, Cabiria?
Point du tout, bien-aimé évêque. Rome m'a vu naître et grandir. Je n'en suis partie que pour suivre mon mari jusqu'en ce pays-ci où je l'ai vu mourir. C'est là toute mon expérience en matière de voyage.
Que Dieu accueille ton époux en son paradis. Puisses-tu le rencontrer sur les chemins de Palestine?
Mon mari?
Dieu, mon enfant, Dieu! Il est la seule rencontre qui importe.
La jeune femme reste muette. Elle a grand respect des divinités, quelles qu'elles soient. Elle ne voudrait en offenser aucune, sait-on jamais. Bien qu'il lui arrive de penser que les dieux sont cruels et font bien peu de cas des souffrances humaines. Celui des chrétiens lui est étranger, mais leur secte rallie de plus en plus de fidèles. Cela signifie peut-être que leur dieu est d'un meilleur secours que les autres immortels. Elena aperçut son désarroi.
Le Christ s'est fait homme afin de partager nos peines.
Cabiria réfléchit un instant, étonnée de ce qu'un dieu veuille souffrir, puis elle interroge.
Ne les aurait-il pas partagés davantage s'il s'était fait femme?
Comment oses-tu? C'est là un fort grand blasphème!
Pardonne-moi, je ne songeais pas à mal dire.
Je me porte garante de la candeur de Cabiria. Son âme est pure comme le jour. C'est pourquoi elle souhaitait l'emmener avec nous dans notre pèlerinage au pays de Jésus.
La soudaineté de cette aventure prend Cabiria au dépourvu.
Un pèlerinage en Palestine. C'est donc de cela qu'il s'agit.
Sais-tu que Jésus est mort pour notre salut et qu'il a ressuscité afin de nous montrer la voie vers son Père?
À ce mot de résurrection, Cabiria hausse un sourcil naïf.
Ce qu'il a fait pour lui-même, est-il en son pouvoir de l'accomplir pour d'autres? Peut-il vraiment ressusciter les morts?
Assurément. Il l'a démontré en ramenant à la vie un dénommé Lazare, trépassé depuis plusieurs jours. Les évangiles sont remplis de ces miracles.
Tout en partageant son morceau de fromage avec le chien Scylax, Cabiria se dit que les prouesses de ce Jésus ressemblent beaucoup à celles du poète Orpheus, descendu aux enfers pour en ramener sa compagne Eurydiké. À nouveau, la jeune femme peine à refouler les larmes à la pensée que son mari pourrait peut-être, lui aussi, revenir du royaume souterrain. Elle serait prête à affronter tous les périls pour aller elle-même arracher le tendre Gadès des griffes de la mort. Si seulement Jésus ou n'importe qui de savant dans ce domaine daignait lui indiquer la route des enfers. Ce fol espoir lui donne le frisson.
Nos paroles t'ont ému, Gabiria.
je songeais à ces jours si proches et pourtant si lointains où tous mes morts étaient vivants.
Ils le seront à nouveau, au jour de la résurrection voulue par Dieu. Rassure-toi, nous retrouverons tous ceux que nous aimons.
Eusebios approuve d'un mouvement de barbe. Puis, il repose la dernière coquille d'huître, tout en se pourléchant les lèvres. Il s'en veut déjà du plaisir qu'il vient de s'octroyer.
Permettez-moi de me retirer, mes amis. Une journée de mortification.
Il est si long et si maigre que les plis de sa toge semblent les cannelures d'une étroite colonne dont sa tête serait le chapiteau branlant. On a presque peur de le voir se casser quand il s'incline pour saluer. Les deux femmes lui retournent son salut. Eusebios glisse sa fragile silhouette entre les rideaux. C'est à peine si le tissu a bougé.
Qu'a-t-il voulu dire ? Que signifie ce mot de mortification ?
C'est une sorte de pénitence que l'on s'inflige à soi-même pour se punir d'avoir joui sans modération des choses que l'on aime.
Est-ce donc mal d'aimer la vie ?
La question de sa suivante plonge Elena dans l'embarras. Elle peine à trouver une réponse qui ne peindrait pas le christianisme sous un jour trop austère.
La vraie vie, celle de l'âme qui ne meurt point, n'est pas de ce monde. Tous les plaisirs sont vils quand ils nous éloignent de la divine perfection.
À l'évidence, l'argument a du mal à convaincre Cabiria. À ses pieds, Scylax passe une langue gourmande sur ses babines. Il semble fort satisfait d'avoir terminé le fromage sans que l'effleure la moindre idée de repentir.
Les chiens seraient-ils plus aptes à goûter de la félicité que les humains ?
Oui, on va peut-être pouvoir. Peut-être une dernière chose.
Oui. Peut-être maintenant pour parler un peu de la construction du livre et de la façon dont tu conçois et tu écris ces histoires. Je me souviens que lorsque ton premier livre était sorti. C'était un livre dans lequel l'imagination était au pouvoir, puisqu'il n'y avait aucun contexte historique, puisque c'était l'époque contemporaine. Et tu avais dit à ce moment-là que l'imagination, c'était comme un muscle, que ça se travaillait.
Oui.
Bon. Alors j'imagine maintenant qu'après 11 romans, l'imagination, elle est là, et que c'est donc beaucoup plus facile.
Tout ce que je n'ai pas dans les biceps, je l'ai dans le néocortex.
Alors, dans ce livre, dans les pirates, comme dans les précédents, il y a bien sûr une contrainte qui est la contrainte historique. Ce qui veut dire aussi qu'il y a de la documentation à faire, de nombreuses recherches, tu nous en as parlé, etc. Alors comment s'articule un tout petit peu ce couple, en quelque sorte, contrainte historique et imagination ?
En fait, je crois que nous sommes tous, nous délirons tous notre vie. Il y a le réel qui est là, enfin la matière, le matériel, il y a... Et puis il y a le récit que nous en faisons à nous-mêmes, la façon que nous avons de percevoir les choses, de percevoir les autres, de nous percevoir aussi. Tout ça étant bien sûr très évolutif. La notion d'identité est une illusion, c'est une chose floue, c'est une chose en évolution, en métamorphose permanente, une identité. Regardez une photo de vous quand vous étiez bébé, ça n'a rien à voir avec vous. Et pourtant c'était vous. Et tous les instants nous amènent vers un autre instant, vers une métamorphose qui est profondément imprégnée d'imaginaire. Et je crois que si nous arrivons à tracer une vie à peu près cohérente dans ces chaos, ces incertitudes, ces aléas, c'est grâce à l'imaginaire. Donc ce que nous faisons dans notre quotidien, c'est aussi ce que fait l'écrivain en écrivant, c'est-à-dire qu'il va prendre la matière du réel, à quoi il va ajouter cette part d'imaginaire qui est indissociable de la pensée humaine, du fonctionnement de notre psyché, même la plus profonde, même pour ceux qui croient n'avoir aucune imagination, c'est faux, ils en ont forcément une, puisqu'ils s'imaginent fils ou fille, mari ou femme, amant ou maîtresse, ils s'imaginent facteur, plombier, secrétaire, ils s'imaginent dans une fonction sociale, ils s'imaginent... Et en plus, il y a l'imaginaire des autres qui vient encore créer notre identité sociale. C'est le regard des autres qui façonne cette personne très bizarre que nous sommes socialement, tout en étant aussi mille autres choses à l'intérieur de nous. Donc nous sommes en permanence en train de délirer le monde, c'est-à-dire de le démultiplier à l'intérieur de nous-mêmes, sans même nous en rendre compte. Et nous n'allons pas voir le même personnage face à telle ou telle personne, dans telle ou telle situation. Nous allons nous aussi devenir de vrais petits schizophrènes du réel grâce à l'imaginaire porteur. Et je crois qu'en fait, le travail d'écrivain, ça n'est que recopier ce passage de ce qu'on appelle le réel dans l'interprétation du réel, qui est le sens que nous donnons à la vie. Je crois que c'est ça, d'être écrivain, c'est recopier autrement le réel. De toute façon, il y a tellement de points de vue du réel que tous sont vrais et tous sont partiellement vrais. La vision que j'ai, moi, de cet instant, n'est pas du tout celle que vous en avez, vous, ne serait-ce que par notre position dans la salle, vous voyez. Et c'est vrai à tous les moments de notre vie. La vision que nous avons de l'être que nous aimons n'est pas celle qu'il y a de nous, et ainsi de suite. Et ça évolue, et ça change, et tant mieux. Alors que nous voudrions, bien sûr, freiner, nous voudrions garder ce temps qui s'enfuit, et nous voudrions que les choses durent. Eh bien, rassurez-vous, il y a une chose qui dure à tout jamais, c'est le changement. C'est la seule chose qui dure dans la vie. Et bon, c'est peut-être ce qu'on essaie de capter quand on écrit, ces modalités du changement du réel, de la métamorphose. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, très très modestement. Alors c'est vrai que bon, la documentation, autant il est facile de se documenter là, comme ça, je vous vois, vous voyez, vous connaissez des gens, vous avez une maison, vous avez des lieux à vous dans la tête, etc., une enfance, que sais-je, des souvenirs, tout ça c'est fastoche. Quand on travaille sur des siècles disparus, alors là, oui, il faut vraiment faut faire ce que j'ai pas fait quand j'étais au lycée, travailler de là. Mes grands cahiers de classe, c'était souvent « devoir non fait, leçon non su ». Je voudrais qu'on grave ça sur ma tombe. C'est vrai que j'ai rattrapé un peu le temps perdu. Certains de mes grands disciples sont dans la salle, comme s'il y a 50 ans, 60 ans. Ils peuvent témoigner qu'effectivement, j'étais un petit branleur. Mais j'ai essayé d'être un bon élève de la vie. Que des livres. Et maintenant, je me retourne vers les livres pour arriver à fabriquer les liens. C'est drôle. En tout cas, c'est marrant. Hein. Si c'était pas marrant, j'arrêterais. Parce que la seule raison valable de faire quoi que ce soit sur cette terre, c'est de le faire pour s'amuser. Si ça ne nous amuse plus, je crois qu'il faut changer de job.
Mais alors oui, d'accord, je dis le dernier mot, si tu veux. En tout cas, je vous invite, je ne sais pas si vous avez lu les précédents. Si vous ne les avez pas lus, faites-le. Et en tout cas, celui-ci a quelque chose de très particulier, parce qu'on te voit quand même évoluer dans cette écriture de, ce qu'on peut dire, de roman historique. C'est que ces personnages, moi, m'ont encore plus touché qu'avant. C'est que la réflexion, l'aventure, la langue, on a très peu parlé de la langue que tu écris, elle est très belle, elle sait se mêler à l'aventure, aux personnages, aux réflexions. Franchement, je me suis régalée. Cette langue, elle est toujours aussi bien et je la trouve... je pense que c'est une vraie contrainte quand on choisit
oui.
L'art romantique.
Oui.
C'est quand même parce qu'il y a de plus simple certainement pour écrire. Mais franchement, je me suis régalée.
Merci Nadège, merci beaucoup. Merci infiniment. Mais tu sais, sans jouer les faux modestes, il y a ce mot de Satie que j'adore, moi pour la modestie, je crains personne. J'ai placé mon chevalet devant de très grands maîtres quand même. J'ai bien joué relu Marguerite Yourcenar, j'ai relu Marc Aurèle, j'ai relu Racine, j'ai relu... Donc on place le chevalet devant des grandes choses, et puis on essaie de faire à sa hauteur. On n'est pas l'enfant de rien, tu vois. On est l'enfant d'un tas de gens. Et je les remercie tous. Et Jacques et
juste pour compléter ce qu'a dit, pour illustrer un peu plus exactement ce qu'a dit Nadège, je voudrais vous lire juste deux ou trois petits extraits. Le sommeil de ceux que nous aimons nous tient toujours à distance. Un visage adolescent doté d'une beauté à rendre jalouse une statue. Sur son visage au trait profond, au trait parfait, les émotions se tisse à livre ouvert. Il porte son âme à fleur de peau. En vérité, quel péril y a-t-il à miser sur la bêtise humaine? Elle ne déçoit jamais.
C'est la seule image que j'ai de l'infini à portée de main. La connerie. Merci.
Voilà, j'espère que ce que vous venez d'entendre vous incitera à acheter le dernier livre de François Rissoulier, Les Pirates de Dieu, chez 10-18. Pour ceux qui n'auraient pas lu également sa trilogie qui se passe au Moyen-Âge, remarquable, Angelus, Magnificat et Requiem, allez-y, lâchez-vous, vous ne le regretterez pas. Et en tout cas, longue vie aux Pirates de Dieu de François-Henri Soulier. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec au montage Léo Touroult, que je remercie. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission, ainsi que ceux de toutes les autres, sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.